et dont voici maintenant un extrait, Les Protées belges. Créature les plus intéressantes qui soient issues de l'imagination populaire est un esprit malfaisant brabançon du nom de Clude, ainsi appelé par onomatopée parce que, semble-t-il, c'est là son cri. Les savants ne se contentent pas d'une explication aussi superficielle et affirment que Clude, Cleden ou Clude, puisque ce sont là quelques prononciations parmi d'autres, doit son nom au verbe scandinave cleuve, qui signifie fendre, dont dérive un autre terme désignant le sabot fourchu s'appliquant au bouc et à ses congénères et par extension au diable. On croit également que Clude est simplement le butor, oiseau échassier des marais, dont le cri à l'époque des amours évoque le mugissement du taureau, particularité qui a engendré la légende du borloo de l'abbaye, être démoniaque qui hantait jadis les étangs de l'abbaye d'Elissem entre Opelissem et Linsmo, et dont les cris étaient perçus à des lieux à la ronde lors des nuits d'orage. Personne ne se risqua jamais à rechercher le borloo et encore moins à le poursuivre. Il disparut spontanément lorsqu'on procéda à l'assèchement des étangs de l'abbaye d'Elissem. Clude, également connu sous les noms de Lude et Loder, à Kuckelberg et Hall, est de caractère espiègle et s'amuse à faire des blagues généralement méchantes aux simples mortels et aux mortels un peu simples d'esprit. L'existence de Clude n'est pas fort ancienne, du moins si on s'en tient au témoignage suivant. Durant l'hiver de 1841, nous rapporte le journal des Flandres, le baron Jules de Saint-Genois dut passer la nuit dans une ferme de Ternate. Au cours de la soirée, tous les membres de la maisonnée, domestiques et bergers, prirent place autour du feu et se mirent à raconter toutes sortes d'aventures de bandits, de revenants et de sorciers, s'arrêtant notamment à Clude. Comme le baron écoutait ces récits avec la plus vive attention, l'un des domestiques lui demanda à brûle-pourpoint s'il connaissait l'origine de Clude, ajoutant qu'il était terrible de l'entendre. « Non, répondit le baron, je n'en ai jamais entendu parler, raconte-moi cela. »« Elle doit remonter à un siècle, plus ou moins, dit le domestique. » À la limite de la commune, il y avait une forêt, et à la lisière de celle-ci, une cabane où habitait une sorcière qui se faisait passer pour une vieille indigente. Personne n'a jamais su comment elle vivait, ni comment elle subvenait à ses besoins. Elle ne demandait jamais rien à personne, et personne n'osait s'approcher de sa maison. Elle était épouvantablement laide, le diable en peinture. Tout le monde était convaincu qu'elle avait des contacts avec les démons, et qu'elle tenait avec eux des conciliabules dans sa chaumière. C'est ainsi que l'on songea à la brûler vive, mais qu'on ne trouva personne pour le faire. Le ciel lui-même finit par exaucer les souhaits de la population épouvantée. Et une nuit, une tempête d'une extraordinaire violence se déchaîna sur la commune de Ternate. Les habitations en souffrirent, mais la foudre ne tomba que sur la terrifiante chaumière qui brûla en même temps que la sorcière dont on tenta d'exhumer les restes 3 jours plus tard. Le propriétaire du terrain donna l'ordre à ses domestiques les plus courageux et les plus fidèles de dégager le corps de la sorcière et de lui donner une sépulture. Ceux-ci s'attelèrent à la tâche armés de fourches et de râteaux. Mais comme ils touchaient le cadavre calciné, un vacarme assourdissant se produisit comme si c'était la fin du monde. Les domestiques, pâles comme des morts, tremblants et muets, virent un petit homme noir sortir de la dépouille de la sorcière et grandir à vue d'œil pour atteindre une taille gigantesque. En quelques instants, il s'était métamorphosé en un horrible monstre à groin de porc et à corps de chien poilu qui gambadait sur ses pattes arrière et qui s'enfuit en poussant le cri « Clude ! Clude ! Clude !» Les domestiques, conclut le narrateur, s'évanouirent. Et quand ils revinrent à eux, il n'y avait plus de traces des décombres. L'endroit qu'occupait précédemment la chaumière s'était transformé en une mare noire, pestilentielle, et nauséabonde. L'âme damnée de la sorcière s'était introduite dans le corps du monstre et continue à errer dans le monde sans trêve, pour tourmenter les ivrognes et les noctambules, mais sans pouvoir leur causer de graves dommages. Malgré la gloire indiscutable que lui ont valu ses exploits, il semble que Clude ait traversé une période fort difficile. Un rival avait surgi, un sosie, qui entachait sa réputation. Il s'agissait d'Oscart, Metzenbelen, au grelot, le très célèbre esprit malfaisant du pays de Waas. Mais une mésaventure survenue à ce rival a rendu à Clude tout son prestige d'antan. Le pauvre esprit malfaisant, en disgrâce, avait été chassé par les exorcismes du vertueux curé de Ham, et pendant 99 ans, il n'allait pas pouvoir regagner la petite ville, qui, proche de Termonde, compte ses 3000 maisons et quelques, ainsi que 14 000 habitants, qui se consacrent honnêtement à l'agriculture et à l'industrie dans les environs de la tour séculaire de la Sint-Peterskerk. Le prêtre, qui avait vaincu Oscart, avait triomphé du démon lui-même. En effet, récemment encore, on pouvait voir sur le mur d'une maison et sur un pilier du cimetière de Ham la trace des griffes du diable. Les voisins chargèrent un maçon de les faire disparaître en raclant les pierres, mais l'artisan dut s'avouer vaincu car la trace devenait plus profonde au fur et à mesure qu'il raclait et parce qu'elle transperçait le crépi, la brique et même les pierres de taille dont il tenta de la recouvrir. Le curé finit par faire une neuvaine et, ô miracle, la trace de la griffe satanique disparut pour toujours. Étant donné de tels antécédents, on ne s'étonnera pas de la défaite d'Oscart, qui ne peut pas non plus se présenter au village de Moerzeke, à 4,5 km de Ham, non seulement parce que le couvent et l'école des sœurs de Saint-Vincent de Paul s'y sont établis, mais également parce que les voisins y ont érigé de petites chapelles à toutes les entrées de rue qui donnent sur la campagne, de sorte qu'aucun être maléfique ne peut aller au-delà. À présent, Oscart erre donc tristement dans les environs de Lescaut, au bord de la mer, et il s'ennuie profondément parce qu'il ne trouve plus de victimes pour ses mauvais tours. Jadis, il s'amusait à qui mieux mieux, mais il faut être juste, sans grande malignité, harcelant et effrayant les noctambules qui très souvent devaient, contre leur gré, le porter sur leur dos depuis son affût favori, les alentours de la Sint-Peterskerk, où l'on conserve un os authentique de géant, jusqu'à grande distance du village. Il s'acharnait particulièrement sur les ivrognes. Il leur brûlait les joues de son haleine infernale, les enveloppait de puanteurs nauséabondes, leur plantait les ongles dans la nuque et finissait par s'asseoir à califourchon sur leurs épaules. Comme il pouvait le faire à volonté, il augmentait son poids jusqu'à ce que le malheureux eût l'impression de porter du plomb sur le dos et quand ce dernier ployait sous le fardeau, miné par l'ivresse ou éreinté pour ces deux raisons, Oscart l'obligeait à se redresser, toujours juché sur son dos, comme le petit vieux sur celui de Simbad le marin, et riait de façon inextinguible. Oscart était un bon petit diable. La mauvaise plaisanterie durait jusqu'à ce que le railleur et le souffre-douleur atteignent un carrefour, trouvent une croix, une effigie de la Vierge ou d'un saint quelconque, ou jusqu'à ce que la bête humaine de Somme songe à se signer. Oscart au grelot sautait alors à bas des épaules de sa victime et disparaissait en prenant ses jambes à son cou. S'il pouvait varier de poids, il pouvait également modifier son apparence, se présentant sous les traits d'un loup au long et rude pelage, d'un chien noir, d'un taurillon difforme, d'un cheval ou d'un géant, mais sous un aspect toujours effrayant. À cause du curé titulaire de l'église paroissiale de Ham et des villageois qui connaissent le moyen de le tenir à distance, Oscart meurt d'ennui, sans autre distraction dans son exil que le cantique éternel des vagues, puisqu'il n'y a pas de noctambule dans les polders, pas plus que dans les dunes. Et ce qui est plus pénible encore, en sa qualité d'esprit incarné, il est tributaire de la faim et de la soif, comme s'il était un homme, et il doit subvenir à ses besoins, ce qui ne lui semble pas fort faisable. Il chaparde donc dans les chaumières isolées, tellement pauvres parfois qu'on n'y trouve pas de croûte dans la huche à pain. Il finit cependant par découvrir dans les faubourgs de Kildrecht un filon, semble-t-il, inépuisable. Il s'agissait de la chaumière du pêcheur Blomart, qui ne possédait que ce refuge et son filet, mais qui, tous les soirs, revenait des rives de Lescaut avec bon nombre de poissons qu'il mettait dans une cuve pleine d'eau pour conserver leur fraîcheur et pouvoir les vendre le lendemain en faisant du porte-à-porte ou sur le marché de Kildrecht. Blomart gagnait péniblement sa vie, mais enfin il la gagnait. Jusqu'au jour où il constata avec étonnement et déplaisir que chaque matin les plus belles pièces avaient disparu de la cuve et que quelqu'un avait utilisé le feu de la cheminée probablement pour faire griller les poissons là même. Fort perplexe et préoccupé, il résolut de découvrir le voleur et de lui infliger une correction à la mesure de ses larcins. Cependant, bien qu'il fût chaque soir soigneusement aux aguets, comme il revenait du fleuve mort de fatigue, à force d'avoir transporté le filet et le produit de sa pêche, il ne tardait pas à s'endormir pour ne se réveiller que lorsque le méfait avait été une nouvelle fois commis. Il désespéra de surprendre l'astucieux voleur, mais décida, pour le moins, de se venger de lui. Aussi, un soir, il plaça dans l'âtre, au lieu de braise, une certaine substance extrêmement courante, repoussante et malodorante, qu'il dissimula sous la cendre. En s'éveillant plus tôt que d'habitude, Bleumart vit avec satisfaction que sa vengeance avait produit l'effet escompté, car les poissons avaient été piétinés avec une colère évidente sur le sol de la cuisine. Et il se mit à rire aux éclats, comme le faisait Oscart à ses bons moments, et comme continue à le faire Clude. Le pêcheur crut avoir mis en fuite le voleur, et il alla bientôt s'imaginer que la chance lui souriait, quand cette même après-midi, alors que la nuit tombait, en retirant son filet, il trouva que celui-ci était plus lourd que d'habitude. Il parvint finalement à le ramener au prix d'efforts titanesques, mais constata avec horreur qu'il débordait de la substance connue, extrêmement courante, repoussante et malodorante, et il entendit simultanément un éclat de rire infernal. Il se retourna pour découvrir qui riait de la sorte, mais ne réussit qu'à entrevoir un chien noir qui s'enfuyait en faisant des bonds de joie. « C'est Oscart, » murmura-t-il en se signant avec dévotion. Mais dès ce jour, il ne tenta plus d'empêcher les larcins et paya la dîme à Oscart au grelot, qui à présent s'en songeait à Clude et, très philosophiquement, s'ennuie peut-être, mais mange au moins à sa faim. Bleumart, en bon pragmatiste, brûle un cierge à Saint-Michel et un autre au démon, comme on dit dans son pays et comme on le fait dans le nôtre. Parents de Clude, d'Oscart au grelot et d'autres, dont nous ferons ultérieurement la connaissance, Necker est également connu en Flandre sous les noms de Duiker ou plongeur, de Waterman ou homme de l'eau, démon aquatique, de Mannekenhaak ou Mannekenmeddenhaak, en l'occurrence l'homme au crochet, de Waterwolf ou Ludo parmi d'autres. Soit il a le don d'ubiquité, soit il ne s'agit pas d'un seul être, toujours est-il qu'on le voit simultanément en divers endroits. Il vit, ou ils vivent, sous les ponts, dans les marais, les étangs, les ruisseaux et les rivières. Comme Protée, Clude ou Oscart, il peut revêtir l'apparence tant d'êtres vivants que d'objets inanimés, au point qu'on l'a vu sous celle de Tricorne, ce qui fait songer aux tentations peintes par Bruegel ou narrées par Flaubert. Il est à volonté de sexe masculin ou féminin, faculté réellement diabolique. En tant que femme, il s'appelle Nyx, Nyx, nous ne savons pas pourquoi, ou Graise-mère, mère ou jument grise. En tant qu'enfant, c'est Neckerjong. Il sort la nuit, rarement le jour, et on le rencontre habituellement sur les rives d'un cours d'eau, d'un étang, tapis par exemple dans une caisse pour faire peur aux curieux qui se risquera à l'ouvrir. Un mauvais tour fut celui qu'il joua au batelier de Neil, Thomas, et à Yann, son aide. Ce dernier avait obtenu l'autorisation de son patron pour aller rendre visite à sa famille qui habitait de l'autre côté du Rupel. En s'en allant, il dit « Basse, patron, quand je reviendrai ce soir, je te hélerai pour que tu aies l'amabilité de venir me chercher avec le canot ». L'après-midi écoulé, la nuit tomba et Thomas, le batelier, mort de fatigue et las d'attendre, dormait déjà profondément quand de grands cris provenant de l'autre berge l'éveillèrent. Il se releva de mauvaise humeur, sauta dans son canot et rama vigoureusement au milieu des ténèbres d'une nuit d'encre. Comme le Rupel fait à cet endroit plus de 200 mètres de large, Thomas, tout à ses pensées concernant les affaires, en oublia de poser la question convenue pour éviter des désagréments à l'arrivée. « Est-ce toi, Yann ?» Il n'y songea plus, embarqua l'autre et entreprit de souquer ferme dans l'autre sens. Toujours aussi absorbé, il vit soudain en lieu et place de Yann, le Necker, qui se redressait au milieu du petit canot. « Mon Dieu !» s'exclama le pauvre batelier. « C'est un diable d'eau, c'est un... » Mais, pataplouf, le Necker avait déjà quitté l'embarcation et Thomas crut s'en être tiré à bon compte. Qu'il croyait ! Le diablotin cramponné au bord du canot l'arrêta et l'immobilisa malgré les efforts surhumains du rameur. Ce dernier, atterré, se mit à prier, et le Necker disparut. Mais pour bondir aussitôt après, à bord du petit canot, en riant aux éclats, et il continua à se moquer de la sorte du pauvre Thomas, affligé, jusqu'à une heure indue, quand ils atteignirent la rive. Le batelier, aussi effrayé que furieux, mais aussi furieux qu'effrayé, se remit au lit, et quand une demi-heure plus tard, le véritable Yann, en chair et en os, s'égosilla pour qu'il vienne le chercher, Thomas s'emmitoufla davantage dans ses couvertures et murmura sur un ton mi-malicieux, mi-craintif « Tu peux toujours crier, maudit, mais tu ne m'y prendras pas deux fois. » Et l'infortuné Yann dut dormir à la Belle Étoile, à ciel ouvert, ou plutôt fermé, parce que la nuit était non seulement froide, mais plus noire que les intentions de Necker. Parfois, tant Necker que Langewapper, dont nous allons nous occuper à présent, surgissent soudain chargés de chaînes, comme les âmes des damnés, et entraînent au fond de l'eau l'infortuné qui leur tombe sous la main, et dont on retrouve ultérieurement le cadavre sur la rive. Les autorités déclarent généralement qu'il s'agit d'un accident ou d'un suicide, mais le peuple n'est pas si naïf, il sait à quoi s'en tenir et connaît fort bien le coupable. Sous son apparence de mannequin hack, l'homme au crochet, le Necker est également le croque-mitaine des enfants qui vont jouer au bord de l'eau. Cet esprit malfaisant de couleur noire se cache parmi les joncs de la rive, attrape grâce à son crochet les petits enfants qui viennent imprudemment folâtrer à proximité de lui et les vide de leur sang avec délice. Quand les malheureux sont sur le point de mourir, il emprisonne leurs petites âmes dans une cruche qu'ils retournent et dans laquelle elles resteront jusqu'à la fin des siècles, à moins que la cruche ne soit renversée ou brisée. Langewapper fait lui aussi partie de cette famille si distinguée. Il est le protée aquatique de la province d'Anvers. Grâce à ses longues jambes, il peut, comme l'araignée d'eau, marcher sur les ondes. Il revêt toutes les apparences qu'il veut et est tantôt nourrisson, gracieux cavalier ou prêtre vénérable, tantôt chien, chat ou tout autre animal qui lui passe par la tête. Tout comme Oscar, il peut à volonté avoir une taille de géant ou de pygmée et prend un malin plaisir à faire des farces de tout genre. Voici l'une des plus retentissantes. La riche, belle, mais peu vertueuse Anneke van de Put avait pas moins de 4 amants qui, toutes les nuits, allait lui rendre visite à des heures différentes. Un jour, profitant de son absence, Langewapper prit son apparence et s'installa chez elle. Le premier amant arriva à 10 heures du soir. « Que désires-tu ce soir ?» demanda le Langewapper en imitant la voix d'Anneke avec l'accent le plus doux qu'il put. « Tu le sais bien, enfin, t'épouser, » répliqua le prétendant. « J'accepterai, » répondit amoureusement Lange, à condition que tu te rendes au cimetière de la Vierge Marie et que tu y restes jusqu'à minuit dans les bras de la croix du calvaire. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais j'y tiens beaucoup. Tu ne me demandes rien d'autre, s'exclama l'amoureux, et il partit. Le deuxième prétendant de la jeune fille arriva à 10h30, et Langewapper lui demanda, comme au premier, « Que désires-tu ce soir ? » ?»« Tu sais bien que c'est épousé. Je n'y verrai pas d'inconvénient si tu te rends au cimetière de la Vierge Marie » en emportant un cercueil que tu te places devant la croix du calvaire et que tu t'y étendes jusqu'à minuit. Étrange souhait. Je veux que celui qui sera mon mari ne craigne ni la mort, ni les morts. J'y vais sur le champ, dit l'amoureux. Le troisième garçon arriva à 11h et Langewapper posa la même question. Il reçut la même réponse et dit « Je t'accorderai ma main si tu te rends au cimetière de la Vierge Marie, que tu frappes 3 fois sur un cercueil qui se trouve au pied de la croix » et que tu y restes jusqu'à minuit. » Il eut le même genre de dialogue avec le quatrième amoureux, dont il exigea « Tu prendras une grosse chaîne que tu traîneras jusqu'au cimetière de la Vierge Marie, et tu feras en la tirant derrière toi 3 fois le tour du calvaire au pas de course. » Le quatrième amoureux partit comme les 3 précédents, et Langewapper, quittant l'apparence d'Anneke, s'empressa d'aller sur les lieux pour voir ce qu'il advenait des victimes de sa farce. Et il s'amusa beaucoup parce que le premier tomba raide mort quand le deuxième s'étendit dans le cercueil, que le deuxième mourut de terreur quand le troisième frappa 3 fois sur le couvercle, que le troisième fut foudroyé quand le quatrième se mit à courir autour de la croix en faisant un grand bruit de chaîne, et que le dernier se prit les pieds dans sa chaîne, roula sur le cercueil, et que l'épouvante provoqua une crise cardiaque. Pour couronner le divertissement de Langewapper, Anneke van de Put se suicida en apprenant le quadruple malheur.
Thank you.
C'était un extrait du livre publié chez Recto Verso, un livre de contes, Le Diable en Belgique, des contes rassemblés par un Argentin, Roberto Peiro, entre 1909 et 1923, et traduit en français par Bernard Gordon.